Amis, frères et sœurs, bienvenue à tous et à toutes. Avant même que nous fassions quoi que ce soit, avant même que nous demandions quelque chose, avant même que nous reconnaissions nos torts, Dieu nous dit « Je vous donne ma paix ». Je vous fais grâce pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous pourriez me dire pour vous justifier, tout ce que vous pourriez me demander. Je suis le Dieu qui aime sa création et son humanité tout entière. Autrement dit, chacun et chacune d'entre vous tel que vous êtes. Alors, la grâce et la paix vous sont données ici et maintenant de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à chacun, chacune pour ce temps de culte. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le site internet et qui sont en communion avec nous. C'est encore un jour de fête ce dimanche pour notre Église, parce que nous avons la grande joie d'accueillir Ameline Garnier, qui a demandé à recevoir le baptême. Chère famille d'Ameline, chers amis d'Ameline, soyez les bienvenus dans ce temple de l'Oratoire du Louvre, ainsi que tous les paroissiens fidèles ou occasionnels, de passage peut-être pour la première fois parmi nous. C'est un jour de joie pour notre Église. Ma consœur Béatrice Cléraud-Mazire se joint à nous là où elle se trouve, c'est-à-dire invitée à présider le culte au foyer de l'âme aujourd'hui, parce que notre autre collègue et consœur Béatrice Hernandez, étant déléguée au synode national, eh bien, ce synode tient sa session en ce moment même. Et pour nous accompagner musicalement, merci à Alexandre Korovitch qui est à l'orgue ce matin. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous sommes rassemblés ce matin dans ce lieu de prière et de communion. Permets que nous soyons du fond du cœur une communauté de prière et de joie autour de celle qui va recevoir le signe de ta grâce. Envoie ton Esprit Saint sur chacun, chacune de nous, et notre foi fera grandir notre amour du prochain. Béni sois-tu pour ta présence fidèle. Amen. Je vous invite à vous réunir dans la communion fraternelle avec le premier chant du livret liturgique qui se situe au début du psautier français. Il s'intitule « Bénissons Dieu, le seul sauveur » et je vous invite à vous lever. C'est le petit livret. Voilà. Seigneur, on nous dit que tu nous parles, mais je n'ai jamais entendu ta voix de mes propres oreilles. Les seules voix que j'entends, ce sont des voix fraternelles qui me disent les paroles essentielles. On nous dit que tu fais route avec nous, mais je ne t'ai jamais surpris à mêler tes pas à ma propre marche. Les seuls compagnons que je connaisse, ce sont les êtres fraternels qui partagent la pluie, le vent et le soleil. On nous dit que tu nous aimes, mais je n'ai jamais senti ta main se poser sur mes propres épaules. Les seules mains que j'éprouve, ce sont celles des mains fraternelles qui étreignent, consolent et accompagnent. Mais si c'est toi, ô mon Dieu, qui m'offre ces voix, ces compagnons et ces mains, alors, au cœur du silence et de l'absence, tu deviens par tous ces frères et toutes ces sœurs, parole et présence. Loué sois-tu, ô mon Dieu. Je vous invite à poursuivre notre louange en prenant maintenant dans le psautier français le chant du psaume 42, qui s'intitule « Comme un cerf altéré brame ». De ce psaume, nous chanterons les strophes 1, 3 et 8. Prenez place. Écoutons maintenant la volonté de Dieu. Dans notre Église, on peut demander le baptême à tous les âges. Et c'est le cas aujourd'hui pour Ameline, qui a rejoint notre paroisse il y a environ 2 ans par le biais du groupe Jeunes Oratoires. Ameline, l'Église aujourd'hui accueille ton désir avec joie. Elle obéit ainsi à la volonté de Jésus-Christ qui a dit à ses disciples « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. » Et il rajoute, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ameline, tu vas être baptisée au nom du Père qui t'a donné le souffle de la vie. Tu vas être baptisée au nom du Fils. Jésus-Christ, mort et ressuscité pour que tu aies la vie, t'appelle à son service. Tu vas être baptisée au nom du Saint-Esprit qui fera naître en toi à la fois l'espérance et l'amour. Grâce à ton baptême, nous nous rappelons notre propre baptême et nous nous souvenons que nous dépendons de Dieu seul et de son amour. Alors nous croyons que cela est vrai pour chacun, chacune, qu'il soit grand ou petit, et même nous le croyons vrai pour ceux qui ne le savent pas encore. En effet, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Prions ensemble. Dieu notre Père, nous avons préféré nos désirs à ta volonté. Nous avons travaillé pour nous plus que pour ton royaume d'amour. Nous nous sommes aimés nous-mêmes plus que nous n'avons aimé notre prochain et toi-même. Pardonne-nous de n'avoir pas changé et de nous être si souvent repentis en vain. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui nous aimes en dépit de tout, nous te prions, change notre volonté. Et avec ton pardon, accorde-nous la force et surtout la joie de mieux t'aimer et de te servir. Nous te le demandons profondément par Jésus le Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen.
J'aime mon Dieu car il entend ma voix quand la veille
Pour accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Ainsi parle le Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous mon esprit. Je serai votre Père, vous serez mes fils et mes filles. Celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Chantons à Dieu notre reconnaissance. prenez place. Et je demande maintenant à Ameline de s'approcher. Alors, Ameline, que demandes-tu ?
Je demande le baptême.
Avec l'Église universelle, veux-tu confesser la foi chrétienne ?
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
Alors, Ameline, quel passage biblique as-tu choisi afin de soutenir ta démarche ?
Je vais aller chercher.
Ça vient.
J'ai donc choisi dans l'évangile de Luc, le chapitre 10, verset 25.
Je te tiens ça.
C'est la première fois.
Merci pour votre indulgence. Donc, verset 25 à 29. Et voici qu'un légiste se leva et lui dit pour l'éprouver, « Maître, que dois-tu faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Il lui dit, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Comment l'as-tu ?» Celui-ci répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Si aujourd'hui je demande le baptême, c'est parce que j'ai choisi de croire en un Dieu tel qu'il est présenté dans cet évangile. En un Dieu qui n'appelle pas seulement l'élan irrépressible de l'affect, un amour que l'on ressent de tout son cœur, mais en un Dieu qui fait appel à la totalité de mon être, à mon âme, à ma force et à mon intelligence. C'est grâce à cela que je peux dire que j'ai choisi rationnellement d'entrer dans l'irrationnel, que c'est ma raison, celle-là même qui m'a fait m'interroger sur le monde qui m'entoure, qui m'a permis d'accepter ce projet d'amour qui dépasse mes simples attributs et qui pourtant exige tout de moi. J'ai choisi d'entrer dans cet abandon d'amour et d'y consacrer ma force chaque jour. Car quelle force faut-il en effet pour répondre à l'exigence et la condition d'un tel amour, aimer son prochain comme soi-même ? Le plus grand effort dont j'ai dû faire preuve est celui d'avoir eu à intégrer au plus profond de mon cœur qu'autrui, quelle que soit la forme qu'il puisse prendre ou les actes qu'il puisse commettre, était lui aussi un enfant de Dieu. Que la personne en face de moi faisait l'objet d'un amour incommensurable, plus grand que toute la rancœur, voire toute la haine que je ne pourrais jamais lui porter. Cette exigence que je porte à mon prochain, il est lui-même en position de la porter. C'est ainsi que je comprends le projet de Dieu et que j'affirme ma volonté d'y participer par ce baptême. Porter en moi une exigence d'amour, de sorte que je dois la supposer présente dans mon prochain. C'est ce qui me pousse à agir de la manière la plus juste possible. Cette même exigence est, selon moi, au fondement de l'invitation chrétienne à répondre à un acte de haine par un acte d'amour. Car je ne peux choisir qui est ce prochain que je dois aimer. Face au mépris qu'il peut me porter, je dois faire preuve de toute mon intelligence pour comprendre la raison d'un tel sentiment, de toute ma force pour ne pas me laisser entraîner sur la pente haineuse, de tout mon cœur pour proposer une solution d'amour et de toute mon âme pour ne pas me décourager en chemin. Cette exigence a de quoi donner le vertige, car elle n'est pas qu'une pétition de principe, elle m'oblige à agir. En tant que nouvelle baptisée, il me faut désormais être comme Jean le fut auparavant, la voix de celui qui crie dans le désert. Il me faut porter ce message d'amour et que celui-ci transparaisse dans chaque acte de ma vie, dans chaque parole, et ce même dans les situations les plus désespérées, voire les plus absurdes. Me faire baptiser, c'est accepter l'idée que désormais, je ne cesserai jamais de crier, qu'il me faudrait être la plus brillante, la plus tonitruante possible, quitte à parfois déranger et bousculer. Aujourd'hui, je m'engage raisonnablement à poursuivre un idéal de vie qui s'appuie sur une force d'amour qui dépasse toute raison.
Ah oui, 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 vous pouvez y aller. Hein. Encouragez-la. Justement, j'invite l'Assemblée à se lever pour accueillir Ameline. Tu restes encore un peu à côté de moi. Je me sens moins seule. Alors, frères et sœurs, amis, voici donc Ameline. Elle est ici chez elle. Vous êtes sa famille spirituelle. Aussi, vous prierez pour elle. Vous l'associerez à l'édification de l'Église. Vous l'encouragerez dans son joyeux service. Aucune contrainte ne la retiendra dans la communauté. Et si elle venait à s'en séparer, vous affirmerez qu'elle peut toujours y retrouver sa place. Vous serez pour elle des témoins de l'amour de Dieu. Dites avec moi, que Dieu nous soit en aide.
Que Dieu nous soit en aide.
Alors, Ameline, que le Saint-Esprit affermisse ta foi, qu'il te montre le chemin, qu'il te conduise jour après jour et qu'il te garde toujours dans cet amour incommensurable. Amen. Avant que nous ne chantions, je crois que c'est le moment de te remettre un petit cadeau. Alors tu vas voir, ce n'est pas un cadeau tout à fait original quand on est ici, mais tout de même, l'original n'étant pas forcément dans le présent, mais dans ce qu'il contient.
Ameline, au nom du Conseil presbytéral venu en force t'accueillir et de toute l'Assemblée, je t'offre la Bible, la version pour les spécialistes de Serres, note intégrale avec la traduction œcuménique Tob, pour t'aider à faire ton chemin.
Parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Et en conclusion de ce moment de baptême, eh bien, nous allons prendre le chant du cantique numéro 308, bien connu de notre assemblée, « Confie à Dieu ta route ». Alors, changement. Nous ne trouvons pas ce cantique dans le psautier français, mais dans le petit recueil bleu qui l'accompagne, le louange et prière. Et on l'ouvre donc au numéro 308. Et je vois que quelqu'un me fait un petit signe. Dites-moi.
Un petit cadeau de la part des bénévoles de la librairie.
Un petit cadeau de la part des bénévoles de la librairie. Bon, je me demande si je ne vais pas demander une seconde fois le baptême. Merci pour Ameline. Cantique 308. Prenez place. Nous continuons la lecture de l'évangile de Luc au chapitre 10. Ameline nous a lu les versets 25 à 28 et je continue cette lecture. Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus : Et qui est mon prochain ? Jésus reprit : Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Un lévite de même arriva en ce lieu. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de l'homme. Il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant deux pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit : Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose en plus, eh bien, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. Lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits ? Le légiste répondit : C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Jésus lui dit : Va, et toi aussi, fais de même. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous, sanctifie-nous, éclaire-nous par la vérité. Amen. Alors, dans les recueils louanges et prières, il n'y a pas tous les cantiques que nous pourrions supposer, en particulier celui qui est photocopié en plus et qui s'intitule « Comme un souffle fragile ». Je pense que chacun doit trouver une petite photocopie en lieu de cantique. Aussi, nous allons prendre ce cantique qui a été proposé par Ameline et nous nous levons pour chanter les trois strophes de ce cantique.
Ta parole est blessure place. Prions ensemble. Dieu notre Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Ameline qui vient de recevoir le signe de ta grâce. Nous te prions pour que chaque jour, ta parole rejoigne sa vie et puisse-t-elle aussi rejoindre les nôtres là où nous en sommes. Accorde-nous la présence de ton esprit afin que les mots de la Bible que nous allons découvrir à nouveau deviennent ici et maintenant parole de vie, une parole pour nos vies. Et à toi montent nos chants de louange et de reconnaissance. Amen. Amis, frères et sœurs, chère Ameline, tout d'abord merci Ameline d'avoir choisi pour ton baptême et ton entrée dans l'Église universelle cette parabole qu'on appelle la parabole du bon samaritain et qui est certainement un texte de l'Évangile que la plupart d'entre nous ici connaît bien. Alors ce texte contient l'essentiel de l'attitude, disons, chrétienne à observer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute la totalité de ton être et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements sont présents déjà dans le Premier Testament, à la fois dans le livre du Deutéronome et dans celui du Lévitique. Alors remarquons la construction du texte de Luc qui est en deux parties. D'une part, le récit du dialogue entre Jésus et le légiste, ou le maître de la loi, qui est la seule partie du texte que nous retrouvons en commun avec les deux autres évangiles, Matthieu et Marc. C'est cette partie que tu as choisi de garder pour ton témoignage de foi, particulièrement vibrant. Et d'autre part, la parabole elle-même, que nous ne trouvons que chez Luc. Alors, je souhaite porter votre attention en particulier sur la question que pose Jésus au maître de la loi. Lequel des trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits ? Pourtant, la question du maître de la loi était claire. Il a demandé « Qui est mon prochain ?» Et tous ici que nous sommes, d'une certaine manière, je l'espère, nous sommes à peu près au clair avec la notion de prochain. Spontanément, nous pourrions répondre « le prochain, mais c'est celui à qui on vient en aide ». Mais en approfondissant un peu, peut-être pourrions-nous répondre aussi « Le prochain, c'est celui qui me vient en aide. » Ameline, le prochain, c'est celui qui te vient en aide et c'est celui que tu es appelée à aimer comme toi-même. Et au fond, ce n'est pas si simple que cela. « Qui est mon prochain ?» demande le docteur de la loi. Et Jésus développe sa réponse au moyen d'une parabole, un récit qui n'est pas une comparaison didactique, mais comme dans d'autres histoires, mais plutôt un récit de vie présentant une attitude à suivre. Il s'agit ici d'un récit mettant en scène trois personnages qui appartiennent à l'univers du docteur de la loi, un récit qu'il peut donc comprendre. Trois personnages ont une attitude différente vis-à-vis d'un quatrième personnage qui est un homme blessé. Les deux premiers, le lévite et le prêtre, ont une attitude négative et il ne nous est pas précisé pourquoi ils ne s'arrêtent pas près du blessé. Pourtant, ces deux hommes ont le savoir religieux, le même que le maître de la loi. Ils savent théoriquement ce qu'il faut faire, mais ils ne le font pas. Ils passent à distance. Peut-être que dans cette histoire, ils ne sont là que pour mettre en valeur l'attitude particulièrement positive que sera celle du Samaritain, la figure même de l'étranger, voire l'ennemi héréditaire d'Israël à ce moment-là de surcroît. Le Samaritain voit, il s'arrête, atteint au plus profond de lui-même. Il soigne le blessé avec l'huile qui calme la douleur et le vin qui désinfecte les plaies. Il prolonge son geste en emmenant le blessé chez l'aubergiste et lui laisse un dédommagement financier. L'aide apportée est donc complète. Et la parabole de Jésus va conduire le maître de la loi, celui qui sait, qui connaît la loi, à dépasser sa perspective sur la notion de prochain, comme nous pouvons le constater dans la conclusion de parabole. À la question que lui pose Jésus à la fin de l'histoire, le maître de la loi, qui au départ voulait mettre Jésus dans l'embarras, donne une réponse suggérée par la parabole. Et sans le nommer, le maître de la loi désigne le Samaritain comme celui qui a été le prochain de l'homme blessé. Ainsi, cette phrase, « Celui qui a été bon pour lui » devient la vraie définition du prochain. Le prochain qui ne désigne pas l'autre par rapport à nous-mêmes, mais qui nous oblige maintenant à reformuler la question comme le fait Jésus, lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme blessé ? Alors le prochain désigne toute personne qui s'approche des autres avec amour, qu'ils soient étrangers, hérétiques ou marginaux. La vraie question serait alors celle-ci, non plus qui est mon prochain, mais plutôt comment vais-je être moi-même le prochain de l'autre. Mais la question peut se poser aussi dans l'autre sens, vais-je reconnaître mon prochain en celui qui me vient en aide ? Parce que celui qui me vient en aide, je ne le choisis pas forcément, et bien souvent, il n'est pas celui que j'avais prévu ou espéré. Il n'est pas forcément celui ou celle sur qui j'aurais pu compter et qui, contre toute attente, est resté à distance de ma blessure. Le prochain que je peux aimer, c'est celui qui a été bon pour moi. Au fond, cette parabole est une histoire à double entrée. D'une part, comment vais-je être le prochain de celui ou de celle qui croise ma route, voire ma vie ? Et comment vais-je pouvoir aimer celui qui m'aide et qui n'est peut-être pas celui sur qui je comptais au départ ? Car celui qui me vient en aide, c'est celui à qui j'aurais eu le courage d'avouer ma faiblesse. Et ce faisant, je lui aurais aussi confié ma vulnérabilité. Cette parabole, donc, avant de nous envoyer vers les autres, nous renvoie à nous-mêmes. Aimer son prochain comme soi-même, cela pourrait être aimer ce qui, en l'autre, est différent de ce que je suis et qui constitue un autre chemin, une voie encore inexplorée, une autre façon d'être soi qu'on ignorait et que l'autre nous révèle. Aimer l'autre comme soi-même, c'est pourquoi pas lui faire confiance avant de le juger et peut-être par voie de conséquence de l'exclure. Faire confiance, c'est le socle de l'amour. Que notre amour soit pour Dieu ou qu'il soit pour l'autre. Et je retiendrai bien sûr une petite minute, ce fameux « aime ton prochain comme toi-même ». Aime-toi d'abord tel que tu es, avec tes défauts et tes qualités. Essaye de connaître aussi l'amour dont tu es capable. Au fond, c'est l'autre qui révèle l'amour que tu as en toi. Il s'agit de nous regarder en face dans les yeux de l'autre comme dans un miroir, car l'image de nous-mêmes sera renvoyée par ce que l'autre dira de nous. C'est celui ou celle, c'est celui qui a été bon pour moi. Je peux dire aussi que mon prochain, c'est celui qui aura été bon pour moi. C'est celui qui aura eu ce geste bienveillant ou cette parole réconfortante, cette attitude d'accueil, cette impulsion compatissante ou miséricordieuse. C'est celui qui a été bon pour lui. Dans ce texte, le légiste exprime de lui-même la réponse qu'il espérait de Jésus. Ainsi, il accède à sa propre vérité. Et l'Évangile, d'une façon ou d'une autre, nous fait accéder à la vérité qui est en nous. Pourtant, bien souvent, nous pouvons nous reconnaître d'abord dans l'attitude du prêtre et du lévite qui s'éloigne, alors, dans le jugement que je porte, peut-être dans une certaine indifférence, mais peut-être parce que la souffrance de l'autre fait peur, incommode, fragilise. Et je me pose aussi la question, alors, qui n'aura pas peur de ma propre souffrance? Qui pourra soulager mes plaies quand à mon tour je serai sur le bord du chemin? Mais cette histoire n'est pas là pour nous donner une leçon de morale, mais plutôt nous donner une leçon d'être. Le lieu de la rencontre, c'est ce geste d'amour, ce regard de compassion comme celui du Samaritain sur l'homme blessé. Le Samaritain vit le blessé et en fut tout ému, nous dit le texte. Ne nous trompons pas. Le terme n'est pas superficiel, parce que le terme grec fait allusion directement aux entrailles. Il s'agit littéralement du tressaillement de la matrice. Le fait d'aimer Dieu de toute sa personne avec la raison, la pensée et la réflexion n'exclut pas le chemin du cœur qui passe par l'émotion. Parce que l'émotion, qu'on le veuille ou non, fait partie de notre humanité, mais aussi de l'humanité de Jésus. Le vrai lieu de la rencontre n'est pas seulement dans un partage intellectuel aussi satisfaisant et valorisant qu'il soit, mais également dans une écoute attentive et attentionnée, une attitude toute simple du quotidien de notre vie, en conciliant toutes les forces qui nous habitent, les mauvaises comme les bonnes, pour devenir exactement ce que nous sommes. Et quand on sait tout cela, eh bien Jésus ne nous demande pas de nous arrêter là. Il ne veut pas simplement qu'on dise ce que l'on a appris de lui au catéchisme, ou à travers la loi, ou à travers son enseignement. Mais pour aller en profondeur, il nous demande d'être ce que nous avons appris de lui. C'est ainsi que je comprends ce petit verset qui dit « Va et fais de même ». C'est une parole qui dépasse la forme d'une simple procédure. C'est une parole dynamique et urgente, même une mise en route, une mise en mouvement. Alors au fond, cette loi d'amour n'est pas inaccessible. D'ailleurs, le Deutéronome nous le disait déjà, la parole de Dieu est dans ta bouche et dans ton cœur. Elle n'est pas hors d'atteinte. Elle est juste révélée par la mise en pratique. Alors, m'appuyant sur le témoignage d'Ameline, qui aide à ce que je formule le mien, finalement. La nouveauté de l'Évangile, ce n'est pas seulement l'autre qui est mon prochain, mais c'est moi qui suis le prochain de l'autre. Son attitude envers moi dépendra de celle que j'aurai pour lui. Il sera pour moi ce que je serai pour lui, juste parce que, comme tu l'as dit si justement, Ameline, c'est porter en soi une exigence d'amour de telle sorte que je la suppose présente chez l'autre en réciprocité. Et c'est quitter le raisonnement, et j'allais dire presque le raisonnable, pour s'abandonner à la foi qui sera force de communion. Aimer celui que j'aide, comme aimer celui qui m'aide, c'est un chemin de libération qui peut prendre toute une vie. Au fond, nous sommes tous en route. Amen. Dans le recueil Louanges et prières, je vous invite à prendre maintenant le numéro 343, et de ce cantique nous chanterons les trois strophes. Je vous invite à vous lever.
Prenez place. Je cède la parole maintenant à Juliette qui va nous conduire dans quelques annonces.
Chers frères et sœurs, bonjour. Je voudrais d'abord, au nom du conseil presbytéral, remercier chacun, chacune qui a contribué au bon déroulement de ce culte. Il y a tellement d'actions à mener avant, pendant et après ce culte. Vraiment, merci à chacun d'entre vous. Et puis, je voudrais aussi exprimer ma reconnaissance à chacun d'entre vous présents dans cette assemblée ou devant votre écran pour votre fidélité. Et je voulais vous dire aussi que le temps passe. Comme le temps passe, ça fait bientôt, dans quelques jours, ce sera l'anniversaire, premier anniversaire donc, de l'élection des membres du conseil presbytéral actuel. Et donc quasiment tous nouveaux. Depuis un an, nous nous sommes reconnus, nous avons cheminé ensemble. Nous vous avons fait connaissance, nous prions pour les uns, pour les autres. En acceptant la fonction et la responsabilité de trésorier, je comprenais bien qu'elle nécessitait quelques savoir-faire, de la rigueur, de la discrétion. Mais ce que je n'avais pas anticipé, c'était le temps utile pour assurer ce rôle. Depuis, je me suis organisée, donc tout va beaucoup mieux. Mais surtout, l'anxiété qu'il occasionne. Depuis 12 mois, je sais maintenant quelles dépenses se présentent plus à une période qu'une autre. Et les flux des dons n'étant pas lissés, tout au long de l'année, la trésorerie est souvent tendue. Alors, certains d'entre vous ont bien compris cette difficulté et donc vous avez choisi de réaliser des dons mensuels, soit par prélèvement, soit par virement, de votre propre initiative. Mais nous ne sommes pas assez nombreux, ou en tout cas, il n'y a pas assez d'argent pour faire face aux dépenses mensuelles. Et la première à laquelle nous devons faire face, que nous ne pouvons pas déroger, c'est notre masse salariale. C'est la rémunération de nos deux employés permanents et de nos musiciens. Chaque mois, lorsqu'il n'y a que 4 cultes, la paye représente 6 600 €. Les dons mensuels que vous avez décidé d'occasionner représente 5 027 €. Faites la différence. Rien que pour la paye, on ne peut pas assurer la paye chaque mois avec simplement les dons mensuels. Alors, qu'est-ce qu'on nous aurons à payer bientôt? Parce que à partir de demain, c'est l'été qui commence. Je sais que chacun fera plein de belles choses, mais surtout n'oubliez pas l'oratoire pendant votre été. Donc, si vous voulez mettre en place un don mensuel, je suis à votre disposition. Le plus facile, le plus libre aussi pour vous, c'est la méthode du virement. Pourquoi? Parce que vous choisissez la périodicité, vous choisissez votre montant, c'est vous qui en êtes le maître. Ça n'obère pas le montant de vos cartes bancaires. Et pour le trésorier, il n'y a pas de frais bancaires. Et le don est régulier et lui permet d'avoir moins d'anxiété. Et surtout qu'on peut assurer les charges qui nous incombent. Alors, qu'est-ce qu'on aura à payer cet été? Évidemment, il n'y a plus de chauffage, tout ça. Mais donc, il y a bien les rémunérations, mais aussi il y a des dépenses de sécurité qui s'imposent à nous. Et les dépenses de sécurité qui s'imposent vraiment tout de suite à nous sont des dépenses liées à la sécurité incendie. Et nous avons 3 000 € à trouver. Voilà, donc je voulais simplement vous rappeler que ne pas oublier l'oratoire du Louvre pendant votre été. Et si vous avez besoin encore plus d'informations, vous pouvez m'écrire à trésorier@oratoiredulouvre.fr. Je suis avec vous quasiment tous les dimanches. Vous pouvez me questionner. Donc, n'hésitez pas à me dire comment je peux vous aider pour donner. Voilà pour l'annonce d'ordre donc financier. Sachez que, en tant que votre sœur Juliette, simplement, il n'est pas forcément vraiment aisé et naturel de vous demander de l'argent. Mais en tant que trésorier, je suis bien contrainte de vous dire ce qu'il en est. Et donc, dès à présent, et dès lors, lorsque j'aurai à vous demander quelque chose, c'est que vraiment, on en aura besoin. Voilà pour ce jour. Nous avons cette semaine un très grand programme. Demain, 21 juin, premier jour de l'été, mais aussi jour de la fête de la musique. Donc, le chœur de l'oratoire du Louvre donnera un concert à 20h ici même. Mardi à 12h30, jusqu'à 13h30, c'est le dernier moment de partage biblique qu'assurera Béatrice Cléromazir, puisqu'elle se rend donc en congé au mois de juillet. Ensuite, jeudi, vous avez la pause spirituelle que vous connaissez bien sous ce programme hebdomadaire avec Agnès, qui est donc avec nous aujourd'hui. Et puis, il y a un événement donc vendredi. Là, je vais prendre un petit pense-bête parce que je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Vendredi prochain, à 19h, c'est la célébration inclusive de la marche des fiertés. Donc, venez tous pour ce moment-là, qui sera très particulier. Et puis, vous retrouverez dimanche notre culte habituel. Voilà. Ah, c'est 20h. Oui, alors c'est la newsletter dit 19h, et comme c'est mon pense-bête et n'est pas à jour, eh bien, c'est à 20h vendredi qu'on vous attend. Voilà, maintenant, donc, c'est le temps de l'offrande. Essayez de goûter, en fait, ce que peut vous apporter l'effet du don joyeux. Et n'oubliez pas que tout ce dont nous possédons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Merci, très bon dimanche.
Unissons-nous dans la prière les uns pour les autres. Merci, Dieu notre Père, pour tout ce que tu nous donnes à travers la rencontre de tous les prochains que tu mets sur notre route. Merci pour le baptême d'Ameline. Merci aussi pour la confirmation de ces jeunes la semaine dernière, qui nous rappellent simplement que peut-être là où nous en sommes, nous aussi, nous avons reçu notre baptême. Nous avons témoigné de notre foi un jour à notre confirmation. Permet que ce que nous avons vécu à ces moments-là reste vivant dans notre vie d'aujourd'hui. Accorde-nous ta présence afin que nous puissions renouveler notre témoignage. Nous te confions celles et ceux qui te cherchent, quelle que soit la façon dont ils te cherchent. Permet qu'ils puissent trouver par notre présence des prochains qui les écoutent, qui les accueillent sans jugement, sans préjugés. Permet qu'ils trouvent en nous tous des témoins d'une écoute attentive, attentionnée, prête à pouvoir entendre parfois l'inaudible et prêt aussi à construire quelque chose qui sera totalement neuf et qui offrira un nouveau départ. Nous te prions pour celles et ceux qui demandent inlassablement le secours de notre prière et que nous te nommons dans le profond de nos cœurs. Nous te confions les familles qui actuellement sont dans le deuil, que ce soit proche de notre Église ou beaucoup plus lointain. Nous te confions celles et ceux qui sont dans une solitude difficile à supporter pour des raisons qui leur sont personnelles, liées à leur histoire. Nous te confions aussi les personnes qui sont hospitalisées, d'autres qui sont incarcérés, d'autres encore qui sont en grande précarité. Et qui auraient besoin simplement d'une présence qui soit pour eux comme une fenêtre ouverte sur un air renouvelé. Chacun avec notre histoire, avec nos désirs, mais aussi avec nos doutes, peut-être même nos peurs, nous nous confions à toi afin que tu puisses nous rejoindre exactement là où nous en sommes. Et qu'avec toi, avec les prochains que tu mets sur nos routes, nous partions à nouveau revigorés sur les chemins de la vie. Puissions-nous, chacun à notre façon, être tes témoins. Nous te confions la vie de nos églises à travers le monde, mais également tous nos frères et toutes nos sœurs en humanité, comme celles et ceux qui croient, qui cherchent autrement que nous. Rappelle-nous que c'est toujours ensemble que nous disons quelque chose de ta présence divine et bien souvent cachée. Et nous réunissons notre prière imparfaite dans celle que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et voici une petite exhortation que j'aimerais partager avec vous. Prenez le temps de jouer, c'est le secret d'un cœur d'enfant. Prenez le temps de rire, c'est une gorgée d'eau fraîche. Prenez le temps de donner, c'est du pain pour l'affamé. Prenez le temps d'aimer et d'être aimé, c'est une grâce de Dieu. Prenez le temps de prier, c'est votre force sur la terre. Alors, amis, frères et sœurs, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous aussi vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Et nous chanterons un dernier cantique. On l'a marqué sur le tableau, mais c'est le 150 et je crois que chacun le connaît à peu près par cœur. Alors, il s'agit de Cantique 150, « À toi la gloire », nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Et juste quelques instants, j'en profite pour vous dire que dans la grande sacristie, les portes sont ouvertes. Vous pouvez aller découvrir les nouveautés de la librairie qui a ouvert ses portes déjà depuis dimanche dernier. Vous êtes les bienvenus. Ensuite, dernière recommandation, lorsque vous quitterez ces lieux, eh bien, vous laisserez vos cantiques à votre place. Nous nous chargerons de les ramasser. Et je vous souhaite, et en particulier à toi, Ameline, un très, très heureux dimanche.
Thank you.
J'invite encore Ameline à venir signer le registre des baptêmes. Bonne journée à vous.